Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, de nouveau rassemblés, les avocats du barreau de Villefranche, après 3 semaines de grève, déposaient, dans un geste symbolique de veillée funèbre, une gerbe de fleurs entourée d'un ruban violet où l'on pouvait lire « La Défense » devant les portes closes du tribunal de Villefranche, ce vendredi 23 janvier au soir. Puis, nouvelle fuite de tritium sous la centrale nucléaire du Tricastin, un événement significatif qui date de novembre 2019, souligne dans un communiqué la CRIRAD. Joint par téléphone Bruno Chariron, ingénieur en physique nucléaire, directeur du laboratoire de la CRIRAD. Et pour conclure, c'est dans une chaleureuse ambiance que les bénévoles de l'unité locale Rhône de la Croix-Rouge française présentaient leurs meilleurs vœux 2020. Avec nous Flore Boncourt, sa présidente, suivi du témoignage de Laure, responsable de l'atelier des femmes du jeudi. Calade, le journal. L'horloge de l'apocalypse avançait de 20 secondes plus près de minuit que jamais. Article du journal Le Monde. L'horloge de l'apocalypse, imaginée en 1947 pour symboliser l'imminence d'un cataclysme planétaire, a donc été avancée à minuit moins 100 secondes par le groupe de scientifiques Lagéran. Nous exprimons désormais en secondes le temps séparant le monde de la catastrophe, non plus en heures ou en minutes, a déclaré Rachel Brunson, présidente et directrice générale du Bulletin of Atomic Scientists, lors d'une conférence de presse à Washington, comme chaque année en janvier. L'année dernière, l'horloge indiquait minuit moins 2. L'aiguille a donc été avancée de 20 secondes. Un groupe d'experts, dont 13 lauréats du prix Nobel, fixe chaque année la nouvelle heure. À l'origine, après la Seconde Guerre mondiale, l'horloge indiquait minuit moins 7. En 1991, à la fin de la guerre froide, elle avait reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit. En 1953, ainsi qu'en 2018 et 2019, elle affichait minuit moins 2. Cette année, nous pourrions assister à d'autres événements que l'effondrement total de l'accord sur le nucléaire iranien, a déclaré l'experte Sharon Scassoni. Quant à la Corée du Nord, l'approche directe de Donald Trump avec Kim Jong-un n'a toujours pas porté ses fruits, dit-elle. Concernant le climat, les experts ont pointé la déception de deux grands sommets consacrés au climat qui n'ont pas suscité les engagements nécessaires des grands pays pollueurs pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. L'année 2019 fut la deuxième la plus chaude jamais enregistrée après 2016. Et le dérèglement climatique s'est illustré avec des records de chaleur, la fonte de l'Arctique et les incendies exceptionnels en Australie. Nous appelons les dirigeants mondiaux à éloigner l'humanité du précipice, a lancé Mary Robinson, présidente du groupe des anciens Elders et ancienne présidente irlandaise. Le temps est venu de se rassembler et d'agir. De nouveau rassemblés, les avocats du barreau de Villefranche, après 3 semaines de grève, déposaient dans un geste symbolique de veillée funèbre une gerbe de fleurs entourée d'un ruban violet où l'on pouvait lire « La Défense » devant les portes closes du tribunal de grande instance de Villefranche ce jeudi 23 janvier au soir. Le barreau de Villefranche et de nombreux barreaux du Rhône, mais aussi sur le territoire national, réaffirment auprès des pouvoirs publics leur opposition au projet de réforme des retraites.
Oui, exactement. Donc 3 semaines de mobilisation, c'est inédit dans le cadre de notre profession. Jusqu'à présent, nous étions cantonnés à des opérations ponctuelles de mobilisation. Là, les 164 barreaux français sont en grève depuis 3 semaines, depuis le 6 janvier 2020.
Justice morte, en tous les cas, pour le tribunal. Donc qu'est-ce qui s'y passe finalement? Des reports, j'imagine?
Alors, c'est un arrêt de toute activité judiciaire, ce qui veut dire que c'est des demandes de report systématique de l'examen des dossiers à des dates ultérieures.
Et pour les parutions immédiates?
Pour les comparutions immédiates, il n'y a pas de désignation par le bâtonnier, ce qui veut dire que les avocats ne viennent pas représenter les personnes qui comparaissent en comparution immédiate. Oui, exactement. C'est un projet que nous combattons fermement. Déjà parce que ce projet a été élaboré sans discussion avec la profession, ce qui est inadmissible puisqu'elle va impacter notre profession. Aujourd'hui, Aujourd'hui, la profession a ses retraites qui sont gérées par la Caisse nationale des barreaux français. C'est une caisse qui est totalement autonome, autofinancée par la profession, donc qui ne vit que par le financement des cotisations des avocats. On ne demande pas un euro à la collectivité dans le cadre de nos retraites. Et plus encore, c'est un régime qui participe à la solidarité nationale, puisqu'il y a entre 90 et 100 millions d'euros par an qui sont reversés par notre caisse pour financer les déficits des autres régimes.
Alors, il y a eu des réunions techniques avec des experts et le gouvernement, quel en est-il ? Qu'est-ce qu'il en ressort finalement, puisque vous êtes toujours en mobilisation ?
Il n'en ressort absolument rien. C'est-à-dire qu'on nous sert des consensus de façade. On nous dit, vous allez garder votre caisse, mais sans aucune prérogative. C'est-à-dire que la caisse sera là, en effet, mais elle n'aura plus aucun pouvoir décisionnel, notamment en termes de fixation des cotisations. Sauf que les perspectives aujourd'hui au niveau des cotisations, c'est une augmentation des cotisations de 14% à 28%. Ça signifie en pratique qu'il y a un tiers des cabinets qui sont condamnés à fermer parce que les cotisations vont complètement asphyxier ces cabinets. Et c'est les cabinets qui font de l'aide juridictionnelle, qui sont là aux côtés des plus démunis. Et l'impact à moyen terme, eh bien, c'est un défaut, une rupture d'égalité des citoyens dans l'accès à la justice.
Que souhaitez-vous particulièrement aujourd'hui face au gouvernement ?
Alors nous ne voulons pas de cette réforme en l'état. S'il y a lieu de devoir réformer, on veut bien discuter, se mettre autour d'une table, mais il faut que ce soit des discussions réelles. Parce qu'ouvrir la porte pour dire on va discuter et dire après on a ouvert la porte, mais en fait les discussions n'ont mené à rien, c'est pas satisfaisant. D'autant que le projet comporte les mêmes carences et les mêmes dangers pour les droits de la défense.
Dans un communiqué du barreau des avocats de Villefranche, l'application de cette réforme conduira à la suppression de la Caisse nationale des barreaux français, caisse des retraites autonome, autofinancée et indépendante, et portera nécessairement atteinte à l'indépendance de la profession, principe essentiel du libre exercice des droits de la défense dans un état de droit, rappellent donc les avocats du barreau de Villefranche. Dans un communiqué, l'absence d'indépendance pourrait conduire un gouvernement à museler la profession d'avocat en l'asphyxiant financièrement. Cette suppression est d'autant plus injustifiée que la profession finance elle-même et de manière exclusive son régime de retraite et n'utilise donc pas un seul euro en provenance de la collectivité pour ce faire. Au contraire, ce sont entre 90 et 100 millions d'euros par an qui sont reversés par la profession d'avocat au profit du régime général. C'était un communiqué des avocats du barreau de Villefranche. Nouvelle fuite de tritium de la nappe contenue dans l'enceinte géotechnique située sous la centrale du Tricastin. Un événement significatif qui date de novembre 2019 souligne dans un communiqué la CRIRAD. La commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité pose la question de l'utilité réelle des commissions locales d'information, la CLI, déplorant le manque de transparence d'EDF qui a attendu au minimum 11 semaines avant de rendre l'information publique. Joint par téléphone, Bruno Charéron, il est ingénieur en physique nucléaire, directeur du laboratoire de la CRIRAD.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est particulièrement choquant, c'est que EDF indique avoir déclaré cette fuite le 6 novembre 2019. Et on l'apprend, là, plus de 11 semaines après la fuite. Donc ça, c'est vraiment pas satisfaisant du tout. D'autant plus que la CRIRAD fait partie de la CLIGET, la Commission locale d'information sur les grands équipements énergétiques du Tricastin, et que, en tant que membre de cette commission, on n'a pas reçu non plus d'informations particulières. Donc ça pose une fois de plus la question de l'utilité des commissions locales d'information et du fait qu'en tout cas les exploitants, EDF en l'occurrence, ne font pas circuler les informations. Alors le problème de cette fuite, c'est que la position d'EDF, c'est de dire que cette fuite de tritium, un élément radioactif, donc, finalement, est en quelque sorte confinée dans ce qu'ils appellent l'enceinte géotechnique, c'est-à-dire une enceinte qui est sous la centrale nucléaire et qui est constituée de murs en béton de 60 cm d'épaisseur qui s'enfoncent sur une douzaine de mètres dans le sol. L'idée d'EDF, c'est que donc, lorsqu'il y a des fuites sous la centrale, l'eau contaminée resterait confinée en quelque sorte sous la centrale. Simplement, ce qu'ils oublient de dire dans leur communiqué, c'est qu'en fait, ils sont obligés de pomper l'eau qui est sous la centrale et de la rejeter dans le canal de Danvers-Mondragon. C'est-à-dire que du coup, cette fuite de radioactivité, qui nous est présentée comme une fuite pratiquement sans importance, confinée, est en réalité transformée en un rejet dans le canal de Danvers-Mondragon. Alors qu'est-ce qu'on risque ? Eh bien, c'est tout le problème des faibles doses de radiation. Les risques sont évidemment très faibles, mais à force de rejeter de la radioactivité comme ça dans l'environnement, et là, en l'occurrence, via des fuites qui ne sont pas maîtrisées, eh bien, ça augmente la présence de cet élément radioactif en aval, dans les eaux et aussi dans le milieu naturel. Et donc, ça participe à l'augmentation de la radioactivité ambiante, sachant que ce tritium se retrouvera ensuite dans les cellules des végétaux, végétaux aquatiques par exemple, des poissons, donc des animaux, des poissons en l'occurrence, et in fine, il peut atteindre évidemment l'homme. Donc ce sont des niveaux qui sont très faibles, mais ce n'est absolument pas normal qu'il y ait de telles fuites, parce que, en France, le rejet d'éléments radioactifs dans les nappes phréatiques est interdit, heureusement, et ce n'est pas la première fois que EDF Tricastin laisse fuir cet élément radioactif, le tritium, dans la nappe. Mmh. Et ça, c'est absolument anormal et ça doit être corrigé. Alors à chaque fois, les raisons invoquées par EDF sont différentes. En 2013, à l'époque, c'était parce que des flaques d'eau contaminée à l'intérieur de la centrale avaient fui parce que des joints entre les bâtiments n'étaient pas étanches, ce qui n'est quand même pas normal. Cette fois-ci, EDF nous dit c'est une tuyauterie d'un réservoir d'effluents radioactifs qui était défaillante. On aimerait bien savoir ce que ça veut dire défaillante. Pourquoi il n'y a pas de rétention sous les tuyauteries pour qu'en cas de défaillance, eh bien, la contamination en soit bien récupérée intégralement. Donc ça pose toute une série de questions et la CRIRAD va écrire à EDF pour avoir un certain nombre de précisions.
La centrale nucléaire de production d'électricité du Tricastin a déclaré le 6 novembre 2019 un événement significatif pour l'environnement concernant la détection d'un marquage en tritium de l'eau souterraine contenue dans l'enceinte géotechnique située sous la centrale. Les investigations menées montrent, communique-t-il, qu'une tuyauterie d'un réservoir d'effluents radioactifs défaillante est à l'origine de l'événement. Le matériel a été immédiatement réparé et remis en conformité. Dans un communiqué d'EDF. Et pour conclure cette édition, c'est dans une chaleureuse ambiance que les bénévoles de l'unité locale Rhône de la Croix-Rouge française fêtaient leurs meilleurs vœux 2020. L'occasion de faire le point sur les actions de solidarité menées sur le territoire, mais aussi les perspectives comme le projet d'inclusion numérique avec Flore Boncourt, qui est la présidente de la Croix-Rouge locale.
Donc nos activités s'orientent sur trois grands domaines, l'action sociale, le secourisme et la jeunesse. Donc l'action sociale, on a à peu près une dizaine d'activités, ça va de la maraude à l'accueil écoute, l'atelier du jeudi, l'alphabétisation, l'apprentissage du français et langues étrangères. Le secourisme, bien entendu, c'est la vocation de la Croix-Rouge. Donc nos équipes partent en poste de secours, que ce soit la fête des Lumières, que ce soit les concerts, des manifestations partout en France. Et la jeunesse, donc c'est un pôle qui est en train de se reconstituer. Donc là, on va au-devant des collégiens, des lycéens et aussi des écoles primaires, parce qu'on fait des initiations au premier secours sur les écoles primaires du territoire. Nous avons une vestiboutique. Dans cette boutique, on trouve du neuf et de l'occasion. C'est trié d'une manière extrêmement stricte, de manière à pouvoir proposer à notre clientèle bien des vêtements en bon état, en très bon état, du vêtement neuf, de la brocante également, que ce soit de la vaisselle, des jouets, des choses comme ça. Et cette boutique est ouverte à tous.
Alors, on va en profiter, puisque ce sont les vœux, peut-être pour les soutiens, les besoins de la Croix-Rouge.
Nous avons, comme toute association, des besoins, d'autant plus qu'on lance un grand projet d'inclusion numérique, donc qui va nous demander de porter un investissement assez conséquent pour pouvoir accompagner les personnes que nous accompagnons à utiliser l'outil numérique, parce que c'est le monde de demain et d'aujourd'hui.
Donc pour pallier à la fracture numérique.
Voilà, exactement. Donc bien sûr, nous avons besoin de dons, nous avons besoin de matériel, de bénévoles aussi. L'idée, c'est que le bénévole trouve sa place. Et dans la pluralité des activités que nous avons, il trouvera forcément sa place.
Laure est bénévole de l'unité locale Rhône de la Croix-Rouge française et elle est également responsable de l'atelier des femmes du jeudi.
Qui accueillent des mamans qui sont souvent isolées. Donc du coup, pour elles, c'est un moment où elles peuvent partager, vivre un moment de créativité aussi, puisque nous avons des professionnelles intervenantes qui viennent pour leur faire faire de l'art. Donc par exemple, on a fait de la couture, on a fait des sacs. Du coup, ça nous permet, si vous voulez, de créer une activité où à la fois ça délivre la parole, ça permet de rompre l'isolement. C'est des moments joyeux pour elles et elles n'en ont pas si souvent. Donc c'est vraiment super. On travaille en partenariat avec la CAF et avec avec Notre-Dame des Sans-Abris, qui participe aussi activement à l'atelier en animant de manière conjointe. Donc c'est vraiment un partenariat et une globalité qui est intéressante, puisqu'on a différents apports à donner. Et du coup, ces mamans, en général, soit sont venues à la Croix-Rouge par le biais de l'aide qu'on peut apporter aux personnes, ou par le biais de la vestiboutique, etc. Soit elles arrivent par la CAF, ou par, effectivement, Notre-Dame des Sans-Abris.
Les locaux de l'unité locale Rhône de la Croix-Rouge française se situent au 1860 route de Francs à Villefranche. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.